Véronique Suquet, bonjour.
Bonjour Sandra, bonjour chers auditeurs.
Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour notre nouvelle émission mensuelle Grandir dans l'amour avec le thème Se reconstruire après une infidélité. Alors, je vais me présenter, je suis Véronique Suquet, je suis sage-femme sexologue et conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël, un cabinet de conseillère conjugale. On est une vingtaine sur la France à recevoir des personnes individuelles ou des couples. Et voilà, et ce thème, en tout cas de l'infidélité, c'est un thème que je revois, qui est bien présent dans nos entretiens et dans nos cabinets. Alors, j'ai été frappée par un sondage, un chiffre la semaine dernière qui disait qu'un tiers des femmes et la moitié des hommes disent avoir trompé leur conjoint. Et pourtant, l'infidélité, c'est source de très grandes souffrances pour chacun. Et c'est une crise qui est parfois fatale pour le couple, mais pas toujours. C'est pas une fin en soi, mais c'est juste le symptôme d'un couple malade. Et c'est une maladie qu'il est possible de guérir parfois. Et ça peut être une formidable occasion de croissance pour le couple. Alors, je voulais vous inviter ce matin à réfléchir à ce sujet, à travers quatre étapes. Qu'est-ce que l'infidélité? Quelle blessure de l'âme, finalement, pour chacun? Et le couple, dans tout cela, comment se reconstruire? Alors, l'infidélité et tout ce qu'elle véhicule révèle avant tout la fragilité de chacun. Ça révèle notre besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'exister dans le regard de l'autre. Et c'est avant tout une quête de soi. Mais c'est aussi beaucoup de souffrance pour ceux et celles qui vont être pris dans ce triangle de l'infidélité. Et sans oublier, bien sûr, les enfants. Alors, moi, j'identifie différentes formes d'infidélité. Il y a certaines infidélités qui vont être tout simplement un prétexte pour mettre fin à la relation du couple. En général, la personne prend peu de précautions pour dissimuler ses relations extra-conjugales. Dans d'autres cas, il y a les infidélités pour se venger d'un manque d'attention, parfois d'un manque d'affection, ou d'une situation qui est imposée par l'autre sans concertation. Alors, vous voyez bien que ce sont des cas très différents. Quelquefois, voilà, on va juste se poser la question sur l'éventualité, est-ce que ça serait l'herbe serait pas plus verte ailleurs? Ça renvoie à un besoin personnel non satisfait. Ça veut dire que si la personne l'avait pris en compte, il n'aurait pas été nécessaire d'aller chercher en dehors du couple. Parfois, ça va être aussi pour provoquer, stimuler son partenaire, quand l'autre n'est pas investi, pas assez présent. Il y a aussi le faux pas. Alors, je dirais que c'est l'infidélité accidentelle, une conjonction de circonstances. Ça peut être une soirée un peu alcoolisée, de la désinhibition. Il n'y avait pas d'intention particulière, ni préméditation, juste de la curiosité, de l'excitation, et qui mène à ce faux pas. Et puis, je pense aussi à d'autres formes d'infidélité, parce que l'infidélité, elle va commencer avant tout dans la tête. C'est dans la tête quand on n'est plus vraiment avec la personne présente, son conjoint, mais avec quelqu'un d'autre ou avec une passion envahissante. Une passion qui va rendre la personne totalement absente psychiquement dans la relation. Ou encore, ça va être par exemple un homme addict à la pornographie ou sur les chats internet. Il y a tellement de formes finalement d'infidélité qui sont possibles. Alors, je vous donne un petit exemple d'un couple que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. J'ai Pia qui me disait que Pierre draguait des femmes en sa présence et que ça lui était tout à fait insupportable. Et finalement, Pierre disait, ce n'est pas une trahison, je ne fais rien de mal, je suis juste ouvert et curieux de nature. Ou alors, il y a Léa sous le choc qui me disait, je suis sous le choc quand j'ai découvert que Louis regardait du porno sur Internet, je me sens trahi. Et Louis qui disait, regarder sur Internet, c'est pas tromper. Et Léa de lui répondre, si, je me sens salie, donc c'est trompé. Voilà, donc quand on parle de la définition de l'infidélité, chacun va avoir sa vision des choses. Mais les mots qui reviennent dans le cabinet, c'est déloyauté, trahison, blessure. Souvent, il y a la notion du secret, quelque chose de secret et quelque chose en dehors du couple. Alors, ça pose la question de qui a raison ? Est-ce que vouloir chatter avec quelqu'un d'autre, c'est tromper ? Voilà, on touche quand même à un point sensible. Ce qui va être important, c'est quelle est la définition sur laquelle le couple va converger. Ça veut dire qu'il y a des règles qui sont explicites. Bon, celles qu'on pose, par exemple, lors du mariage, où on s'engage fermement à la fidélité. Et puis, il y a des règles dites implicites. C'est toutes ces règles non dites qui vont de soi. Et on voit bien que les règles de l'un ne sont pas forcément les mêmes règles pour l'autre. Donc, ça va être important pour nous, dans le cabinet, de redéfinir le terme d'infidélité pour chacun. Ensuite, j'ai envie de dire quid des petites infidélités dans le couple. Alors, c'est toutes ces fois où mon regard se détourne de mon partenaire pour aller s'attacher ailleurs. Donc, on a évoqué Internet et le cybersexe. Ça, c'est en plein essor, je le retrouve quand même assez souvent. Mais ça peut être aussi d'avoir une relation plus intime avec un collègue de travail, avec un ou une amie. Mais c'est aussi avec ses écrans, quand l'ordinateur ou le téléphone a plus d'attrait que son propre conjoint. C'est aussi la place du travail, si le travail prend toute la place, et même la place du couple et du conjoint. Alors je pose souvent la question suivante, est-ce que ce que vous vivez là participe à l'épanouissement de votre couple, ou est-ce que ça l'abîme et l'étiole ? Voilà, mais dans l'infidélité, on a avant tout deux personnes profondément blessées. Pour moi, l'infidélité, c'est avant tout un symptôme d'une dysfonction du couple. Et à ce titre-là, c'est très important d'accueillir la souffrance de chacun des deux protagonistes. Alors dans mon cabinet, j'entends souvent « je viens vous voir pour ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait ». Mais j'ai bien deux personnes en souffrance, sinon ça ne serait pas arrivé. Et ça, ce qui va être important, c'est à chacun de cheminer et de se questionner sur les ressorts qui ont pu amener à cet état. Alors finalement, s'engager dans une relation extra-conjugale, c'est inviter le mensonge dans son existence. Et ce mensonge, il va venir abîmer la relation et il va laisser des blessures qu'il faudra panser. Et ces mensonges, ils ont un prix, c'est celui de la culpabilité. Alors quand on regarde au niveau individuel, qu'est-ce qui se passe pour chacun ? Pour celui qui est trompé, il peut y avoir une anesthésie émotionnelle ou un déni. Alors je vous donne un petit exemple, j'ai un couple, Stéphanie, qui continue comme si de rien n'était. Et elle me parle de ce qui s'est passé comme s'il s'agissait d'une autre personne, sans émotion. Elle rationalise, elle réfléchit. Et c'est vrai que ce calme apparent surprend Sébastien, et lui, il est soulagé d'aller de l'avant. Mais quand ses émotions se sont réveillées, ça a été la douche froide. Insomnie, cauchemar, pensées obsédantes et intrusives. Elle me disait, un petit disque se met en marche dans ma tête et j'ai bien du mal à le contrôler. Dès qu'il parle à une autre femme, hop, la jalousie survient. Et puis il y a la peur et l'insécurité. Et si ça recommençait, je ne supporterais pas cette blessure à nouveau. Alors parfois, ça va amener à l'évitement du partenaire. Elle me dit, je suis partie quelques jours chez une amie pour réfléchir et ça m'a fait du bien. Il peut également y avoir de la colère contre soi. Elle me disait, j'ai été trop conne pour ne pas m'en rendre compte. Il y avait pourtant des indices. Et parfois aussi la colère contre l'autre, qui peut aller jusqu'au désir de vengeance. Mais moi, ce qui marque le plus, c'est le sentiment d'humiliation avec la perte d'estime de soi. Et cette question récurrente que j'entends, mais quelle valeur ai-je ? Voilà, pour que je ne lui ai pas suffi. Donc, il va y avoir un très gros travail de reconstruction de la personne, de retrouver son estime de soi, de l'aider à réapprivoiser son image, à reprendre plaisir à faire des choses pour elle ou même avec l'autre. Alors c'est sûr que la blessure est accrue quand il y a eu un mensonge. Ça c'est vraiment la double peine. J'ai souvent entendu « je suis plus en colère du mensonge que de l'acte lui-même ». Et pour celui qui a trompé, je retrouve très souvent dans les témoignages une minimisation Oh, ben c'était que sexuel, mais c'est ma femme que j'aime. Ou un déni ou une culpabilisation de son conjoint. Oh, c'est parce que tu avais moins envie de sexualité que moi, ou tu es tellement pris par ton travail ou par les enfants. Mais très souvent, ce que j'entends, c'est j'ai honte. Je me sens coupable de le faire ou la faire souffrir. Je me sens tellement nulle d'avoir fait ça. Donc pour celui qui a trompé, il y a aussi une perte d'estime de soi. Et très souvent également un grand conflit de loyauté, parce que ses propres valeurs vont être mises à mal. Alors Christophe Fauré, dans son livre « Est-ce que tu m'aimes encore ?» dit que l'infidélité, c'est avant tout un indice de changement de la personne. C'est qu'il y a quelque chose dans le mode de fonctionnement du couple qui ne va plus, qui est à revoir. Alors, vers quoi va mener cette infidélité pour le couple? Alors, parfois, ça va faire éclater le couple. Quelquefois, l'infidèle est déjà parti dans son cœur et en fait, c'était déjà une place vide. Soit le couple va tenter à deux une nouvelle dynamique. Alors, une nouvelle dynamique, on me dit « je voudrais que ça revienne comme avant ». Ben non, c'est pas possible que ça revienne comme avant. Par contre, ils vont peut-être pouvoir construire quelque chose d'autre, un autre modèle, en gardant ce qu'il y avait de bon dans leur couple et en faisant face au manquement. Qu'est-ce qui leur a manqué? Alors, ça peut être aussi parfois une tentative pour sauver son couple, pour faire en sorte que les choses changent et changent en profondeur. Et parfois, certains vont garder le silence pendant des années. Ça permet à la personne qui trompe de garder un espace de réflexion et de sécurité. Parfois, c'est révélé assez rapidement. Les couples finalement qui s'en sortent mieux sont les couples pour lesquels la confession a été rapide et la plus exhaustive possible, contrairement à ceux qui ont nié longtemps. Et comme je vous disais, la double peine, c'est quand même quand quelqu'un pose des questions, c'est qu'il y a quand même des doutes. Quand on a des doutes, c'est qu'on est prêt à entendre. À ce moment-là, il vaut mieux dire la vérité finalement que mentir, parce que mentir, c'est vraiment cette double peine que va vivre l'autre. Donc après le choc de l'annonce, la colère, la peur liée à l'insécurité, il peut même y avoir des réactions dépressives. Cette infidélité va venir toucher en profondeur des failles intérieures et rouvrir des blessures anciennes. Des blessures autour de l'infidélité des parents, de notre propre histoire. Pour la personne infidèle, je vous parlais de cette culpabilité, de cette honte. À cela s'ajoute la peur de perdre son couple. Alors finalement, il y a ceux qui veulent tout de suite reconstruire. Mais ça passe quand même par un chemin de pardon qui va demander un travail de fond, qui va demander du temps, un cheminement. Il va falloir dans un premier temps accueillir l'émotion et le vécu de chacun avant de parler de cette reconstruction, de comment aller de l'avant. Et puis il y a ceux qui sont totalement perdus. Perdus parce qu'ils ne savent pas s'ils veulent continuer avec leur conjoint ou leur nouvelle conquête. Ça va nécessiter un travail d'accompagnement et un espace pour permettre au couple de se donner du temps, parce qu'il y a souvent beaucoup de confusion émotionnelle. Et là, ça va être important que chacun prenne soin de soi, de mieux comprendre ses besoins, de se reconstruire pour pouvoir discerner ensemble de la suite à donner. En tout cas, c'est une crise sans précédent. C'est une crise qui va appeler au changement, si on veut que ça ne récidive pas. Et au cabinet, on va faire une relecture de ce qui s'est passé. Alors non, ça ne sera pas comme avant, parce que comme avant, c'est ce qui a créé les conditions de l'infidélité. Donc au contraire, on va créer du neuf. Le premier pas, c'est souvent le besoin de comprendre ce qui s'est passé. Donc Sophie Caladen disait « Mais qu'est-ce qu'on a fait ensemble pour en arriver là, ensemble ?» Voilà, c'est une difficulté du couple et pas d'une personne. Moi, je pose souvent ces questions. Qu'est-ce qui a manqué ou pesé dans la vie d'avant à celui qui a trompé? Qu'est-ce que vous avez découvert de vous dans cette relation et qui pourrait être vécu dans la relation légitime que vous avez? C'est aussi l'occasion de re-questionner les valeurs de chacun et du couple. Ça veut dire aussi travailler quand il y a des déséquilibres, c'est-à-dire des jeux de pouvoir dans le couple. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir réenvisager la place de chacun dans le fonctionnement. Autre question, de quelle sécurité est besoin celui qui a été trompé a besoin pour refaire confiance à son conjoint? Alors la confiance, c'est une grande question qui revient souvent. Cette question de confiance, elle s'intègre dans une certaine temporalité. Il va falloir du temps. Quand je dis du temps, c'est 1 an, 2 ans pour que la confiance puisse renaître. Ça va être un travail de longue haleine. C'est un travail de reconstruction des personnes, de chacun. Comment se valoriser, besoin de marques d'attention, besoin de tendresse pour se reconstruire et pouvoir reconstruire son couple. Alors finalement, cette relation extra-conjugale, elle a bien une fonction, une motivation et une raison. Donc notre travail, nous, de thérapeutes, c'est vraiment de chercher avec le couple qu'est-ce qui a amené, en tout cas, à cette relation extra-conjugale. Quel a été le sens de ce qui s'est passé? Et on va essayer de replacer le travail dans une recherche de solutions au sein du couple et non plus à l'extérieur. Le problème ne vient pas de l'extérieur, le problème est dans le couple. Donc le psychiatre Christophe Fauré, dans « Est-ce que tu m'aimes encore ?» disait « L'infidélité ne va pas forcément sonner le glas du couple, car il est possible de se reconstruire après cette crise majeure. » Et même de se choisir à nouveau, mais conscient des imperfections de chacun, et de faire évoluer la relation vers un amour plus mature. Voilà, donc avant cette reconstruction, il va falloir cet espace d'expression de la souffrance de chacun pour entendre la souffrance de celui qui a été trompé, mais aussi de celui qui a vécu la relation extra-conjugale. Donc ça vous fait vivre quoi? Ça pose la question, tu apprécies encore quoi en moi aujourd'hui? Ou qu'as-tu appris de moi? Donc finalement, il va être important quand même de garder cet épisode le plus possible dans l'intimité du couple. Alors ça, c'est un point important parce que très souvent, je retrouve des enfants pris en otage de révélations, voilà, qui ne va pas du tout servir la reconstruction du couple ni la construction des enfants. Alors quand les enfants, les parents sont mis dans la confidence, d'où l'importance de trouver un tiers extérieur qui soit neutre pour pouvoir évacuer vidanger. Ça va être apprendre à communiquer sans tabou, donc sur son ressenti. Donc voilà ce que je ressens quand tu as fait ça. Ça va permettre à l'autre de modifier son comportement pour arriver à moduler la souffrance de l'autre. Il va falloir reconnaître les dégâts causés pour cheminer vers le pardon. Alors ce pardon, il est au cœur de la reconstruction et il va passer par l'accomplissement d'actes concrets. Alors ce qui va être un obstacle majeur, c'est ceux qui veulent continuer dans leur relation extra-conjugale. On ne peut pas reconstruire le couple quand quelqu'un veut continuer ou reprendre sa relation ou quand quelqu'un est dans une ambivalence dans sa reconstruction. Voilà, donc il y a vraiment une décision, un choix de reprendre la vie de couple et de la travailler. Ça va nécessiter de restaurer la confiance. Alors pour cela, il va falloir mettre à bas les représentations idéalisées pour des représentations un peu plus réalistes du couple avec les failles de chacun. Ça veut dire travailler la sécurité, les garanties. Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre pour lui apporter des garanties que ça ne va pas se reproduire? En quoi je peux me montrer fiable et digne de confiance? Moi, je vais aussi beaucoup travailler, prendre soin du couple, travailler ce fameux « nous » qui a été, qui avait été déserté. Alors, dans les langages de l'amour de Gary Chapman, il parle de ces moments de qualité que l'on peut vivre à deux, des paroles valorisantes, des cadeaux, des services rendus. Voilà, remettre ce compte en banque du couple en positif, là où il a été bien mis à mal. Il va falloir aussi réinvestir la sexualité, recréer de l'intimité. Et souvent, une sexualité génitale va être compliquée au début. Elle va plutôt passer par le recours à la tendresse, des signes de tendresse, d'affection pour l'autre. Et beaucoup de bienveillance l'un pour l'autre. Donc c'est une période où les personnes sont mises à mal et où ils vont attendre comme un besoin de réparation, en tout cas pendant un premier temps, de faire attention à ses attentions, à son couple, à son conjoint. Ça veut dire aussi se questionner à dire à nouveau oui, à quoi je suis prêt à dire non. Il va falloir qu'il y ait des changements. Si je veux donner plus de temps à mon conjoint, de quoi je vais devoir me séparer? Est-ce que c'est un travail trop prenant, des hobbies accaparants? Est-ce que c'est les écrans du soir? Le groupe de copains qui ne favorise pas notre intimité? Parfois, c'est aussi l'alcool. Est-ce que je suis prêt à réinvestir aussi mon look, ma féminité ou ma masculinité pour être plus séduisant pour l'autre et aussi pour moi-même? Voilà, donc développer la bienveillance, mais aussi travailler sur sa personne, voilà, se faire aimable aussi pour l'autre. C'est également refaire des activités ensemble qui étaient source de plaisir avant. Alors montrer à l'autre qu'on a la volonté de faire des efforts pour reconstruire. Donc c'est à la fois un travail intérieur en soi et extérieur vers l'autre, en faisant voilà, ces petits deuils. Donc finalement, il y a quand même quelques situations, je dirais, qui doivent vous alerter et qui peuvent mettre en danger la relation. C'est en particulier quand un des membres du couple ne fait pas la part entre ses problèmes perso et les problèmes du couple et qu'il désigne l'autre comme responsable de son mal-être. Ça, c'est quand même une grande faille qui peut pousser vers l'infidélité. Donc ça demande au couple d'être en situation de vigilance, de se questionner et re-questionner, de se mettre en marche ensemble. C'est également dès qu'il y a un tiédissement des sentiments, un ennui, une frustration et qui s'accumule. Par exemple, quand j'en ai un qui dit « c'est toujours moi qui organise tout, il ne prend aucune initiative ». Voilà, ce sont ces plaintes qui s'accumulent de manière incessante. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose en souffrance, un besoin en souffrance. Et pourquoi l'autre ne bouge pas? Qu'est-ce qui fait que l'autre reste figé? Ça, c'est aussi une grande faille. Donc, quand les besoins d'affection, les besoins d'intimité, les besoins de reconnaissance, les besoins d'autonomie ou les besoins de sexualité n'ont pas été mis en mots dans leur couple, ou n'ont pas été entendus. C'est le risque que l'autre aille chercher ailleurs, par son travail, par des relations plus poussées avec des collègues, et toute l'intimité émotionnelle qui l'accompagne. Alors il y a quand même des étapes un peu plus à risque dans la vie d'un couple. Les crises de vie. Ces crises de vie, on a la naissance d'un enfant, on peut avoir le chômage ou la perte d'une activité professionnelle. La crise de milieu de vie, où le couple se retrouve face au syndrome du nid vide. Et puis le couple à la retraite aussi. Voilà, tous ces changements qui font qu'on se re-questionne sur sa valeur. Il ne faut pas oublier que le premier enfant du couple, ce n'est pas les enfants, c'est bien le couple lui-même qui est dont il faut prendre soin. Alors pour conclure, c'est qu'il y a tant de choses qui poussent les couples à l'infidélité. Internet et ses rencontres facilitées. un certain individualisme, une génération zapping. Il y a aussi la mobilité géographique, un désir de jouissance immédiate. Alors oui, être fidèle, c'est exigeant. Mais la fidélité comme l'engagement sont quand même des vertus positives. Et pour terminer, le mot fidélité, il a la même étymologie que les mots foi et confiance. Pour être fidèle, il faut avoir foi et confiance en soi, confiance en l'autre, et ça se construit tous les jours. À chacun de prendre le temps et les moyens d'en prendre soin. Moi, j'aime bien dire que le oui d'un jour, c'est pas un oui de toujours, mais c'est un oui à redire chaque jour. Voilà, donc cette infidélité, même si elle blesse, elle fait mal, elle laisse des traces, c'est une formidable occasion de croissance pour un couple. Et 83% des couples qui font un travail sur eux repartent. Voilà, donc j'ai envie de dire, il faut... Philippe Labreau disait, l'important, c'est pas de tomber, mais de se relever. Voilà, chers auditeurs, pour aujourd'hui, sur ce thème de l'infidélité. Donc, je vous invite à poser vos questions.
Véronique Suquet, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Sandrine. Sandrine, c'est à vous.
Oui, bonjour, bonjour Mme Souquet, bonjour Radio Maria. Je vais essayer de faire au plus vite, déjà, bien sûr, une fois de plus, merci pour la qualité de vos intervenants et des questions posées dans nos vies qui viennent nous rejoindre dans notre quotidien, nos problèmes, qu'on n'ose pas... Enfin, j'aurais aimé connaître tout ça tellement avant. Il faut qu'on ne nous élève pas à l'école avec tout ça, qu'on nous fasse un peu des cours à part, ou rencontrer des personnes comme vous. Donc, merci Radio Maria. Mme Souquet, bonjour, donc je suis Sandrine. La plupart des personnes de Radio Maria me connaissent, puisque je ne fais que l'appeler. J'ai 48 ans, je suis veuve depuis l'âge de 43 ans. Suite à la découverte une nuit de l'infidélité de mon mari, je suis partie de la maison sans faire de bruit pour pas faire des cris et attendre le lendemain matin qu'il fasse jour pour lui casser la vaisselle du mariage. Nous étions mariés depuis plus de 22 ans, 28 ans de relation. Je suis partie sans laisser un mot, mais juste en disant je vais revenir demain matin quand les enfants seront partis. Stéphane s'est suicidé quand il a compris que j'avais découvert. Alors j'entends tout ce que vous dites, c'en est bouleversant. Parce qu'il y a toutes ces phases, il y a toutes ces émotions, et pourtant l'être, il n'est plus là. Il y a tout ce qu'on aura envie de faire, tout ce qu'on se remet en question, il y a toute cette fameuse reconstruction qui est inenvisageable, cette torture de savoir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on a fait ensemble justement pour en arriver là. Il y a aussi le fait, enfin tout ce que vous avez expliqué, je peux vous prendre point par point. Il n'y a pas un seul cas, c'est tout ce que vous avez expliqué. Je l'ai tout vécu. Le truc que je l'avais pas vu, je l'ai vu. Je l'ai dit, je l'ai mis sur un plateau d'argent. On est allé faire une thérapie. On a fini même 2 jours avant Alpha Couple parce qu'il fallait remettre notre couple à plat. Seulement, il a été dans le déni total. C'est-à-dire que pendant que moi, j'étais sincèrement en jalousie, que j'étais jalouse, il faisait ça pour moi, voilà, il faisait ça pour moi, pour me montrer qu'il m'aimait, les démarches qu'on faisait, c'était pour, entre guillemets, me faire plaisir, enfin, par amour, parce que c'était pas possible, il aimait trop sa femme et ses enfants, c'était inenvisageable. Et moi, il y avait quelque chose que je sentais qui allait pas, quoi, et qui allait pas de très près. Malheureusement, je me suis pas trompée, mais de là, est-ce qu'il l'ait fait? Alors, et vous disiez que ce qui faisait le plus mal, souvent, c'était pas l'acte en lui-même, c'était le mensonge. Alors moi, je vais aller malheureusement beaucoup plus loin, puisqu'il n'est plus là. Je vais vous dire que pendant des années, et encore aujourd'hui, ce qui me remue un petit peu moins, mais qui est presque à égalité maintenant, mais avant, c'était ce qui m'a fait tenir en vie aussi, c'est la brûlure que j'avais de l'infidélité, plutôt que de l'acte de s'être pendue. Mmh. J'étais tellement folle de rage, incompréhensible, j'ai hurlé pendant plus d'un an de cette rage d'infidélité. Comment a-t-il pu faire ça? comment a-t-il pu envoyer nos valeurs en l'air, nos enfants, parce qu'il y avait, il y avait nos enfants qui ont joué entre guillemets un jeu dans cette relation extra-conjugale, parce que c'était la maman d'un ami, bien sûr, d'un de nos enfants, donc il m'a mis l'enfant au milieu.
C'est très. J'entends qu'il y a beaucoup, beaucoup de blessures. Vous touchez à plusieurs choses différentes. Donc d'abord, on voit bien que la blessure est extrêmement profonde. Vous dites ça touche à des valeurs. Oui, ça met à mal les valeurs du couple. Même la personne infidèle, pour elle, est dans une ambivalence terrible. Un écartèlement, parce que c'est quand même des valeurs auxquelles la personne croit, même si c'est arrivé. Vous touchez autre chose qui est cette douleur quand l'infidélité soit est cachée par le mensonge. Et l'autre chose, c'est aggravé quand c'est quelqu'un de proche, un ami, une amie en qui on avait confiance. Ça accroît énormément la souffrance. Moi, c'est ce que je vois chez les couples. Voilà, donc cette souffrance du mensonge, cette souffrance que ce soit quelqu'un que l'on connaisse, en qui on a confiance, cette souffrance d'avoir les enfants pris dans ce maillage. Et vous disiez aussi ce déni, je parlais du déni, de la minimisation. Ça a une fonction, les gens font ça pour se protéger, en minimisant ce qu'ils ont fait ou en trouvant des explications, je dirais, qui sont ce qu'elles sont, mais très souvent, ils essayent. Le déni, il n'est pas pour l'autre, il est pour eux-mêmes, parce qu'ils ont, il y a une telle honte et culpabilité de leur acte qu'ils ont du mal à se regarder en face, en fait. Donc, je disais que ça crée une blessure terrible d'un côté, mais de l'autre aussi. Voilà. Et d'où l'importance d'avoir un lieu, un thérapeute, quelqu'un pour accueillir les souffrances de chacun, de pouvoir vider cette souffrance pour pas que ça tourne en rond dans le couple. Dans le sens, pour que ça puisse être évacué comme on évacue un abcès, il n'y a pas de pardon, de reconstruction tant qu'on n'a pas évacué la part de souffrance, et ça prend énormément de temps. Ce temps que vous n'avez pas eu, malheureusement.
Non. Ça n'a pas été faute d'essayer de le faire. Ça n'a pas été faute d'avoir chacun aussi son thérapeute. Mais voilà, c'était moi qui étais la plus fragile. Et comme vous parliez aussi, ça réveille des blessures d'enfance. Enfin, je pourrais vous dire que de A à Z, je ne vais pas vous dire que vous ne vous êtes pas trompé de vocation. En tout cas, c'est exactement ça. Mais le problème, c'est qu'il faut prendre tous les points et vous me les mettez dans le sac. Et le sac, il est bien gros et lourd et fermé. Et il a fermé avec une corde. Donc, c'est très difficile. Par contre, je vois pas. Enfin, je me dis.
Là, pour vous, c'est difficile parce qu'effectivement, vous pouvez. Dans le cheminement, vous pouvez faire. Voilà.
Je ne pourrais jamais lui casser la vaisselle du mariage dans la figure. Je pourrais jamais. Il ne me répondra jamais, sauf dans mes cauchemars de toutes les nuits qui sont insupportables. Il ne me répondra jamais. Il n'y aura jamais ce retour que j'attendais pour savoir qu'il me regarde et qu'il reconnaisse, qu'il le dise. Non, il a marqué qu'il était un boulet, qu'il avait honte.
Voilà cette honte que l'on retrouve du côté de celui qui a eu cette relation.
C'était pas nous, c'était pas moi, c'était lui.
Et bien ça prend des naissances dans des failles et des blessures personnelles. D'où l'importance du travail personnel de chacun. Vous, de votre côté, aujourd'hui, au point où vous en êtes, il y a juste de pouvoir aller faire des retraites type agapé, de relecture d'histoire de vie, de réconciliation avec vous-même, parce qu'effectivement, vous n'avez plus d'interlocuteur.
Non.
Pour pouvoir. Mais ça laisse
des questions. Je la cherche. Je cherche l'altercation à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un. Enfin, une discussion, je cherche, je pousse. Pour savoir justement que l'autre me réponde ce qu'il n'a jamais fait, au contraire, qu'il a toujours adouci les choses, pris beaucoup d'amour, ces fameux temps de. Vous savez, on connaissait les quatre. Les fameux temps de qualité, les cadeaux, les ci, les là. Donc, il savait ce dont j'avais besoin. Je savais ce qu'il appréciait aussi. Donc, il savait qu'il me fallait des temps de qualité. Un cadeau, je lui foutais à la figure, mais par contre, un temps de qualité. Donc, il savait faire. Ouais. Et je sais qu'il était sincère avec moi, mais il s'était perdu.
C'est ce que je disais
Mais
à un
aujourd'hui,
moment,
je peux rien lui dire. Voilà.
Voilà, ce que je disais à un moment, c'est que pour certains, ils sont perdus, ils ne savent plus où ils en sont. J'ai vu des couples se séparer pendant un certain temps, 1 an, 2 ans, revenir ensemble après un travail chacun de, je dirais, de cicatrisation, de travail sur soi. En tout cas, ça demande énormément de travail sur soi pour comprendre cette question qui revient tout le temps. Pourquoi? Ce besoin de compréhension, qu'est-ce qui s'est passé, où ont été les failles, pour ne pas reproduire la même chose dans l'avenir, retrouver confiance, si c'est pas dans un conjoint, dans un autre, un jour conjoint, ou dans d'autres personnes autour de soi, de pas vivre dans la méfiance de l'autre. Voilà. Donc ça demande beaucoup de travail, c'est sûr, sur soi, et pour vous, de pouvoir évacuer cette colère de... Voilà, de ce qui s'est passé, et puis il vous a fait faux bond en plus,
Oui, ça c'est
en vous
frustrant.
laissant seul, c'est encore plus difficile à vivre. Voilà, dans la, je dirais, c'est même pas une double peine, là, c'est une triple peine. Voilà, donc de vivre avec ça tous les jours. Donc je vais vous confier au Seigneur parce que
Je vous remercie.
là, je pense que vous avez besoin de son appui et de son soutien.
Je vous remercie. Merci donc encore pour la qualité et pour ceux qui sont encore là. Vous avez raison, il faut se battre. Le pardon, il est là, on a juste besoin de s'exprimer.
Oui.
Ça vaut pas la vie d'un homme. Non.
Non. Et je peux vous dire que ça en vaut la peine parce que je vois des couples repartir et
Et je sais qu'on serait
beaucoup plus
reparti.
solides après
Oui.
quand ils ont réussi à affronter ça.
Et voilà. Je vous remercie vraiment.
En tout cas, de tout cœur
Il me
avec
manque une
vous.
suite, il me manque un petit bout. Voilà.
Oui, d'écrire la fin de
Et
votre
puis
histoire.
malheureusement, ouais. Oui, il y a plein d'histoires.
Mais
Merci
votre
beaucoup,
histoire
merci.
continue à travers vos enfants maintenant et voilà, votre vie est dans l'ici et le maintenant et dans demain.
C'est une autre histoire, ça sera un autre tome.
Voilà,
Une autre
exactement.
émission. Je
Voilà.
vous remercie. Merci de me prendre dans votre
Merci de
prière.
votre
Merci à
témoignage
chacun
en tout cas.
de votre patience à m'écouter à chaque fois.
Merci
Merci.
pour votre témoignage très touchant.
Merci Sandrine. Alors, nous avons un message de Francesca. Bonjour à toute l'équipe. Sans vouloir remettre quoi que ce soit en question, je me permets de faire une petite réflexion. Si on regarde la vie du couple d'un point de vue de réflexion spirituelle, Dieu dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, donc y compris s'aimer. Quand je regarde un couple où les deux sont croyants, à l'exemple du couple Louis et Zélie Martin, ces couples traversent les épreuves sans forcément tomber dans de grandes tentations. Avec Dieu, la foi et la prière, le fardeau est moins lourd. Sans Dieu, malgré toute la bonne volonté humaine, l'homme reste faible. Bonne et sainte journée à tous. Et c'est signé Francesca.
Très belle parole, parce qu'effectivement, la foi, la prière, le soutien du Père, c'est capital. Et de pouvoir se réancrer dans son sacrement de mariage, c'est quelque chose de fondamental quand on vit des épreuves. Alors, on ne peut pas dire que la tentation ne sera jamais là. On est humain et on vit avec des tentations autour de nous, mais la foi, la prière, Dieu nous donne cette force, effectivement, de surmonter les épreuves. Voilà, et une énorme espérance en tout cas, message d'espérance et d'amour inconditionnel.
Alors, Véronique Suquet, nous arrivons quasiment au terme de notre émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter une information en conclusion de notre émission d'aujourd'hui?
Non, je pense que Francesca a bien conclu à travers la force de la prière. Voilà, et que cet amour que. Cet amour du couple qui est donné l'un à l'autre, et c'est quand même notre besoin fondamental d'aimer et d'être aimé. Et cet amour du Père inconditionnel, voilà, est un exemple pour nous, pour avancer, donner le meilleur de nous et faire grandir l'autre, voilà, grandir dans l'amour, hein, une croissance pour soi, mais une croissance pour l'autre. Et quand je fais grandir l'autre, bah, ça me fait grandir aussi.
Merci beaucoup Véronique Suquet, puis on vous retrouvera pour une prochaine émission sur un autre thème dans nos émissions Grandir dans l'amour. Merci beaucoup.
Merci.
Au
Bonne
revoir.
journée à chacun. Au revoir.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Grandir dans l'amour avec Véronique Suquet. qui nous parlait du thème suivant, se reconstruire après l'infidélité. Vous pourrez réécouter notre émission sur le site internet de Radio Maria, www.radiomaria.fr.